Bonjour, vous êtes sur Couleur FM 97.1 et vous écoutez l'émission Au fil des notes. Vous pouvez aussi nous écouter le mardi donc à 21h, le samedi à 18h et le dimanche à 11h tous les 15 jours. Bonjour Marie.
Bonjour Valérie.
Bonjour chers auditeurs. Tout d'abord, nous souhaitons à tous nos auditeurs, mais aussi au personnel de Couleur FM et puis à tous ces bénévoles, une très bonne année 2014. Que celle-ci vous apporte joie, bonheur et santé et que cette année soit douce pour chacun d'entre vous. Au fil des notes propose aujourd'hui une émission sur le thème de la musique classique utilisée dans la publicité et dans les films. Alors, nous allons en fait faire deux émissions sur ce sujet, l'une sur le classique dans la publicité et puis l'autre sur le classique dans la cinématographie.
Oui, en effet, nous avons tous en tête un air classique que nous avons entendu et découvert grâce à une publicité ou un film.
Cet impact au travers de ce moyen de communication n'est pas à négliger. Il sert, à notre avis, à faire découvrir cette musique aux gens qui n'ont pas eu la chance de se familiariser avec elle dans leur enfance, et puis aussi à nos jeunes qui, dans certains milieux, malheureusement, ne sont pas forcément exposés à ce type d'écoute de musique.
Bien sûr, pour certains mélomanes, cette utilisation peut sembler parfois abusive et est une vraie torture. Mais objectivement, elle a un réel intérêt dans ce cas notamment. Elle peut aussi sembler à d'autres bien à propos, notamment dans l'utilisation cinématographique qui a pour intérêt de passer plus souvent les compositions en entier et non pas en extrait.
Et oui, vous l'aurez compris, c'est un vrai débat au sein des puristes de la musique, la musique classique, Marie. Et puis pour certains, c'est même un vrai combat. Nous allons tout d'abord parler de la musique classique utilisée dans la publicité.
Oui, par moments vous entendrez en fond quelques extraits de ces compositions et nous aurons bien entendu des petites pauses musicales aussi.
Comme d'habitude. Alors là, actuellement, vous entendez Franz Schubert, la marche militaire numéro 1, bien rythmée, bien dynamique. Alors la musique classique est apparue dans les années 50 dans les publicités. De nombreux Français fredonnaient un petit air entendu sur leur poste de radio qui était issu d'une publicité concernant un produit nettoyant auto ou autre chose, sans se douter un seul instant que cette entraînante musique était un grand morceau de classique. Par exemple, la marche militaire écrite par le grand Franz Schubert. Depuis, la télévision a pris le relais de la radio et de multiples spots publicitaires ont fait appel au patrimoine classique.
Dans le répertoire français, c'est tout naturellement vers Georges Bizet et son chef-d'œuvre Carmen, l'opéra le plus joué dans le monde, que les publicitaires se sont le plus souvent tournés, à l'image des promoteurs d'un certain produit ménager, détournant à leur profit la célèbre Habanera en 2003. D'autres Français ont collaboré, bien malgré eux, à la réussite des spots publicitaires à finalité mercantile. Ce fut notamment le cas de Paul Ducasse et l'apprenti sorcier qui a servi de support à la promotion d'un papier toilette en 1973.
On hésitait tout à l'heure sur le terme de papier toilette, oui. Papier hygiénique. Qu'est-ce qui est hygiénique? C'est hygiénique la musique classique.
Voilà,
c'est
ce
hygiénique dans la vie. Il en faut un peu d'hygiène mentale. Bien, alors on va écouter là pour l'instant un petit florilège d'extraits de ces musiques qui, vous le verrez tout de suite, elles ne vous sont pas inconnues et elles font référence sûrement dans l'esprit de certains d'entre vous à des spots publicitaires. Donc vous êtes sur Couleur FM 97.1, vous écoutez l'émission Au fil des notes. Et vous allez donc écouter un extrait de Georges Bizet, Habanera, de Carmen, et puis aussi un extrait de l'apprenti sorcier, Paul Ducasse.
Thank you.
Allez, l'apprenti sorcier est parti en courant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cela peut faire bondir les amoureux de musique classique de voir utiliser ces magnifiques morceaux pour la publicité. Mais si l'on fait fi de tout cela, on se dit que finalement, sans ce culot de la part des publicistes, sans cet intérêt lucratif, hein, on dira Marie, hein, grand nombre d'entre nous n'auraient peut-être jamais sans doute entendu ces morceaux. Hein, donc c'est quand même important.
Oui, cependant, on ne doit pas oublier le côté négatif de la publicité qui conditionne psychologiquement la personne et relie donc cet extrait musical à un choix qui clairement sera dirigé dans son esprit vers ce produit marketing dès lors qu'il entendra ce morceau.
Et oui, mais après tout, la musique, Marie, hein, on en a discuté longuement ensemble, elle n'est pas réservée qu'à une élite.
Non, heureusement. Hein. Heureusement.
Voilà, elle doit être offerte à tous sans distinction aucune et donc c'est une valeur universelle. Ici, au fil des notes, on entend bien partager et défendre cette valeur universelle. Alors, avançons un peu plus sur ce thème et profitons-en pour découvrir ces extraits bien connus. On va écouter un petit extrait de Jazz Suite numéro 2 de Chostakovitch, si vous le voulez bien, toujours sur Couleur FM 97.1 en compagnie de Valérie et Marie dans l'émission Au fil des notes. Alors Marie, je ne sais pas vous, mais moi, à chaque fois que j'entends cette musique, je craque, je l'écouterai des heures. Oh, c'est beau, c'est magnifique. Ce que je voulais dire aussi, toujours à propos des publicistes, c'est que l'intérêt pour eux d'utiliser ces musiques, c'est que souvent, on l'oublie, mais elles sont tombées dans le domaine public et donc elles sont exonérées de droits d'auteur.
Tout à fait.
N'est-ce pas? Et c'est ce que nous disions avec Laurent tout
avantage
à l'heure.
Avantage financier.
C'est un avantage financier non négligeable et ce problème des droits d'auteur bien connu des compositeurs interprètes et qui souvent fait débat hein, parce que en général, ces pauvres compositeurs interprètes, pour les petits, j'allais dire pas pour les gros, pas pour ceux qui sont très connus, mais pour ceux qui sont peu connus, ils n'en voient guère la couleur et en plus avec la modernité avec tout le système qu'il y a, des téléchargements illicites, etc. C'est pas facile aujourd'hui, il faut le
pas
dire,
facile à gérer
pour les auteurs-compositeurs de gagner leur vie avec ce problème-là. Mais bon, ça c'était une petite aparté que je voulais quand même souligner parce que je pense que les auteurs-compositeurs travaillent beaucoup et souvent ils sont pénalisés avec ces droits d'auteur. Donc on parlait de Chostakovitch, qui était lui ce cher Dimitri Chostakovitch. Il est né le 25 septembre 1906 à Saint-Pétersbourg en Russie et il est mort le 9 août 1975 à Moscou en URSS. Russie, URSS, et ça vous dit quelque chose, Marie? Je n'explique pas plus. C'est un compositeur russe de la période soviétique. Il est l'auteur de 15 symphonies, de plusieurs concertos, d'une musique de chambre abondante et de plusieurs opéras. Sa musique, souvent accusée de formaliste par le pouvoir soviétique, contribue par sa force et son dramatisme, souvent exacerbé, à faire de Chostakovitch une figure majeure de la musique du XXe siècle. Après avoir étudié le piano avec sa mère, Dimitri Chostakovitch entre en 1919 au conservatoire de Petrograd, où il étudie le piano avec Leonid Nikolaïev et la composition avec Maximilien Steinberg, et aussi en composition Nikolai Sokolov. Il se lie ainsi d'amitié avec Alexandre Glatsounov, alors directeur du conservatoire.
Oui, et Dimitri Chostakovitch liait aussi de profondes amitiés, notamment avec des musiciens comme David Oistreich, le violoniste, et Mislav Rostropovitch, le violoncelliste, dédicataire de ses concertos pour violon et violoncelle. Inutile de rappeler que Chostakovitch a bénéficié d'un retour en grâce dans le public français autour de cette valse par son utilisation comme musique illustrative dans une publicité télévisée pour une célèbre marque d'assurance. Je ne pense pas qu'il s'attendait à ça. Mais au-delà de cette mode, qui a donné à Chostakovitch une visibilité qu'il n'avait vraisemblablement jamais eue depuis sa mort au milieu des années 70, cette valse charmante, accessible, entraînante, est un point d'entrée agréable dans son œuvre, mais assurément pas l'œuvre qui rend le plus justice à sa production.
Certes, mais au moins ça a le mérite d'exister et de l'avoir mis en valeur. Donc le jazz et les variétés étant considérés par Staline comme des musiques dégénérées, il fut créé en 1934 un orchestre national de jazz qui en fait n'était autre qu'un orchestre de chambre traditionnel auquel furent ajoutés des saxophones, des cymbales, des xylophones, des banjos. Et Chostakovitch fut ainsi prié de composer des œuvres afin d'élargir son répertoire. C'était comme ça en URSS, on ne demandait pas gentiment, on imposait. Donc l'écriture d'une suite dans la langue du jazz par Chostakovitch est liée à sa participation à une commission soviétique de jazz. Ça fait un peu sourire quand on entend ça aujourd'hui. Elle avait pour but d'organiser un concours à Leningrad pour rehausser le niveau du jazz en URSS. Musique populaire et de café, peu connue et présente en Russie soviétique des années 1930. Pour encourager d'autres compositeurs, Chostakovitch écrivit cette œuvre qui ne fut cependant pas son premier essai dans le domaine, puisqu'il avait, sur un pari d'orchestration, déjà écrit Tahiti Trot, qui est assez connu aussi, en 1928, et la première fut donnée à Leningrad la même année lors du concours.
Alors, moi, je vais un petit peu vous parler de cette suite de valses, parce que j'aime beaucoup son histoire. Il a d'abord créé successivement deux suites. Une suite pour orchestre jazz numéro 1, numérotée opus 38A, en 1934. Elle se compose de trois mouvements, la valse, la polka, le foxtrot. Une suite pour jazz numéro 2, sans numéro d'opus, en 1938. Cette seconde suite pour orchestre de jazz de Chostakovitch est une commande de l'Orchestre d'État pour le jazz et son chef Viktor Knouchevitsky, La première fut donnée à Leningrad en 1938.
On reste toujours dans les commandes de l'État.
Oui,
hein.
Oui.
On sent bien la puissance.
Il fallait le faire pour être bien vu.
Voilà, la puissance,
pour pouvoir
la
continuer.
Puissance URSS.
Voilà.
De l'époque.
Elle se compose, donc cette suite numéro 2, de 3 mouvements et non de 8 repris par erreur par Ricardo Chailly, du scherzo, d'une berceuse et d'une sérénade. Mmh. Mais il y a eu aussi une suite pour orchestre de variété numéro 1, Opus 50B, qui est une œuvre de musique classique pour orchestre, constituée de pièces pour orchestre et datée de 1956. Et c'est de cette suite qu'est extraite l'une des plus célèbres musiques du compositeur auprès du public, donc cette valse de Chostakovitch, la valse numéro 2. Voilà. En fait, on se mélange un petit peu.
D'accord,
dans tout
c'est,
ça.
Pas, c'est pas très clair.
C'est pas très clair.
Mais bon, bon, on va y arriver, on va s'y retrouver. En tous les cas, on l'a écoutée, elle est vraiment très jolie.
Très jolie.
Et Chostakovitch avait initialement numéroté son œuvre sous le numéro 1, mais aucun numéro 2 n'existe,
voilà.
En fait.
Et
hein.
Oui.
Donc toutefois, le biographe de Chostakovitch a annoncé en 2000, c'est pas si loin que ça,
non.
La découverte d'une suite pour orchestre de variété numéro 2 en 4 mouvements. Bon, je ne sais pas si on va s'y retrouver.
Non.
Mais
moi, je ne suis pas sûre.
On essaye. Durant plusieurs années, cette suite fut incorrectement identifiée à la suite pour orchestre de jazz numéro 2 de 1938, qui était, elle, une œuvre différente en 3 mouvements, perdue pendant la Seconde Guerre mondiale et dont une réduction pour piano fut redécouverte en 1999 par Manachir Yakubov et orchestrée en 2000 par Gérard McBurney. Donc, c'est pas évident.
Oui, et en fait, la plus grande partie de la suite est constituée de réutilisations d'œuvres diverses.
D'accord, donc c'est un espèce de melting pot, on va
oui.
dire. Hein. On va faire encore une petite pause, parce qu'aujourd'hui, on a envie de faire plein de petites pauses musicales, toujours sur Couleur FM, votre radio préférée, et vous écoutez toujours l'émission Au fil des notes. On va écouter Emmanuel Rosfelder à la guitare, qui va nous jouer Asturia.
Thank you.
on est passé un mari à quelque chose de très très différent. Hein.
Oui.
Il n'a pas intérêt à avoir une crampe dans les mains quand il joue son morceau, ce brave Emmanuel Rosfelder, parce que ouais. Là, il est fichu. Donc ce morceau, c'était le morceau Asturia d'Isaac Albéniz, un morceau qui a servi les intérêts d'un grigo du café. On ne donne pas les marques, hein, on évoque simplement le type de publicité qui a eu intérêt à utiliser ce morceau. Et donc Isaac Manuel Francisco Albéniz y Pasquale, c'est très simple comme nom, né le 29 mai 1860 à Comprodon, en province de Gérone, en Espagne, et mort le 18 mai 1909 à Cambo-les-Bains, dans les Pyrénées-Atlantiques, en France, est un pianiste et compositeur espagnol. Il est particulièrement renommé pour ses œuvres pour piano inspirées de la musique folklorique espagnole. Francisco Tárrega et Miguel Lobet, pour ne citer qu'eux, ont transcrit pour la guitare un grand nombre de ses pièces. Ces transcriptions participent aujourd'hui grandement à la renommée d'Albéniz.
Oui, et bien qu'aucun de ses parents ne soit musicien, le jeune Isaac commence très tôt à étudier le piano, si bien qu'à l'âge de 4 ans, il donne son premier concert à Barcelone, au théâtre Romeo, et suscite une vive admiration. Valérie, des gens allèrent même jusqu'à vérifier derrière le rideau de la scène si un autre pianiste n'était pas caché.
Bah oui, il faut dire qu'à 4 ans, on se demande, on doit lui mettre un coussin sur les fesses, rehausser les pédales.
Oui. Grand voyageur, le jeune Albéniz fait à Budapest cette fois la rencontre de Franz Liszt en 1880. À partir de 1883, il se fixe à Barcelone et y épouse une ancienne élève, Rosina Giordana.
Eh ben voyons.
À partir de cette année-là, le musicien fantasque se consacre pleinement à la composition et à l'éducation de ses 4 enfants.
Alors, d'abord installés à Londres, puis attirés par la vie musicale parisienne, les Albéniz se fixent dans la capitale française en 1893. C'est pour eux l'occasion de fréquenter des musiciens comme Vincent d'Indy, un des fondateurs de la Schola Cantorum. Albéniz eut, pour un instant, un poste de professeur dans la célèbre école. Mais en 1900, il dut abandonner ce poste à cause de sa santé déficiente. Isaac Albéniz, malheureusement, meurt le 18 mai 1909, à Cambo-les-Bains.
Oui, et d'autres compositeurs ont vu leurs œuvres interprétées et utilisées de la sorte. Le compositeur russe Alexandre Borodine a également apporté sa pierre à l'édifice publicitaire, grâce notamment aux danses polodziennes du prince Igor, utilisées en 1989 au service de publicité pour des pneus.
Tout fait feu.
Autre russe appelé en renfort des courbes de vente, Sergueï Prokofiev avec Pierre et le Loup, que l'on a écouté tout à l'heure, naguère au profit d'une grande marque de lait, puis en 2010 de la multinationale d'une boisson gazeuse. Mais le champion russe dans le domaine est toutefois Piotr Ilitch Tchaïkovski, dont de nombreuses œuvres ont été utilisées par la publicité, notamment son opéra Roméo Juliette en 1990, pour une grande marque de parfum, et aussi les ballets, le Lac des Cygnes, pour une marque de chocolat en 91, et pour de Casse-Noisette, pour une marque d'ordinateur, avec la valse des fleurs.
Donc on voit bien qu'il y a tout un panel de publicités, peu importe le type de
support,
la musique classique, quand même, elle aide à tout vendre, on va dire.
Voilà, et je serais curieuse de savoir comment les publicistes choisissent tel ou tel compositeur suivant l'objet à vendre.
C'est vrai, donc un avis aux auditeurs, si quelqu'un peut nous répondre, on est preneur de la réponse.
Voilà. Nous avons aussi encore le grand Edvard Grieg avec Peer Gynt de la suite numéro 1 qui forcément à son écoute vous rappelle là encore quelques publicités.
Bien, on les a souvent en tête, mais bon, on n'a pas les titres et les noms des compositeurs, mais on les a souvent en tête. Et les publicitaires utilisent beaucoup ces musiques classiques ou sacrées actuellement. Hein. Ils jouent ainsi, à mon avis, Marie, sur la fibre de l'humour, de la séduction, de l'émotion. Et puis ainsi, ils vous incitent à acheter quand même.
Oui, hein, puis bon, la musique, bon, elle correspond à... Personne n'est choqué, je dirais, quand on entend la musique sur cette publicité.
On n'est pas choqué par l'image.
Ben, hein, peut-être souvent, pas tout le monde.
Quand
pas
on
tout
voit
le monde.
Bien souvent des musiques.
Ben, je dirais le papier toilette avec la vanne. Bah, écoutez, là, je ne sais pas. Mais voilà.
C'est vrai. Mais bon, moi, je vois les parfums, par exemple. Oui. C'est souvent bien approprié. Je
tout
trouve
à
que
fait.
Ça tombe très juste.
Voilà.
C'est sensuel, c'est beau, c'est esthétique. Et ça se confond, en
oui.
fait, avec la mmh. publicité. Mmh. Donc, c'est quand même bien choisi. Bon, après, le reste.
Voilà.
Hein, on en fait et on en pense ce que l'on veut. Et nous allons donc continuer nos petites écoutes sur Couleur FM en compagnie de Valérie et Marie dans l'émission Au fil des notes. Un extrait tout de suite de Pierre et le loup, parce que contrairement à ce que vous disiez,
oui,
Marie, on l'a écouté
oui.
tout à l'heure, mais c'était en off.
Oui.
Donc on va le repasser maintenant pour les auditeurs.
Voilà.
Hein, qui
et on va en parler un petit peu.
Et on va en parler, bien sûr, un petit peu. Ce Pierre et le loup qui a été composé par Sergueï Prokofiev, que tout le monde connaît, je pense, qui est une musique que l'on conseille souvent aux parents pour qu'ils initient leurs enfants à la musique classique et aux instruments. Par ce conte musical pour enfants, dont le compositeur russe Sergueï Prokofiev, qui est né en 1891 et mort en 1953, donc il n'y a pas tant de temps que ça, hein, il écrit le texte et compose la musique en 1936, année de son retour définitif en URSS. Alors, Prokofiev se lance dans la création de Pierre et le Loup grâce aux encouragements de Natalia Saz, la directrice artistique du Théâtre Central pour Enfants de Moscou, qui souhaitait familiariser les jeunes avec les principaux instruments de l'orchestre symphonique. Et moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très réussi. Je l'ai expérimenté, en tous les cas, moi, avec mes trois enfants.
Moi aussi.
Ils ont toujours adoré.
Mes petits-enfants,
c'est vraiment
super. Oui.
À recommander. Mm. Et il a donc déjà 4 symphonies et plusieurs ballets à son actif quand il achève et dirige la première exécution de Pierre et le Loup, le 2 mai 1936, avec Natalia Saz comme récitante. Hein.
Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette histoire, Pierre est un jeune garçon qui vit dans la campagne russe avec son grand-père. Un jour, il laisse la porte du jardin ouverte. Un canard profite de l'occasion pour aller nager sur la mare toute proche. Il se querelle avec un oiseau. À ce moment, un chat s'approche. L'oiseau, alerté par Pierre, s'envole pour se réfugier dans un arbre.
Oui, oui, oui. Et le grand-père de Pierre ramène le garçon à la maison en bougonnant et il referme la porte parce que, ouh, le loup pourrait surgir. De fait, le voici bientôt qui sort de la forêt. Le chat monte se réfugier dans l'arbre pendant que le canard, qui, tout excité, était sorti de la mare, se fait avaler par le loup. Pierre prend une corde et, en escaladant le mur du jardin, grimpe dans l'arbre. Il demande à l'oiseau d'aller voltiger autour de la tête du loup pour détourner son attention. Et pendant ce temps, il forme un nœud coulant avec lequel il parvient à attraper le loup par la queue.
Les chasseurs sortent de la forêt et veulent tirer sur le loup, mais Pierre les arrête. Tous ensemble entament une marche triomphale pour emmener le loup au zoo.
Eh oui, Marie, le loup s'en va au zoo. Un joli cadeau pour les fêtes de Noël à offrir à vos petits qui adoreront cette histoire musicale. Alors, Noël est passé, certes, on peut le faire pour les étrennes, par exemple.
Bien
c'est
sûr.
Pas mal non plus, hein, Marie,
bien
des
sûr.
Étrennes comme ça, vu comme ça.
Alors, ont également été embauchés pour vanter des produits commerciaux. Maurice Ravel avec son œuvre culte, le merveilleux Boléro,
ah oui.
mis au service d'une assurance en 1992. Charles Gounod avec « Dies Irae » de son Requiem, mm-hmm. mis au service des torréfacteurs, puis Camille Saint-Saëns et son tout doux aquarium du Carnaval des animaux qui, lui, a boosté les ventes d'un lait pour enfants. Il y a eu profusion dans ce domaine.
Ouais, je crois que c'est très riche. Ils ont fait courir leur imagination, les publicistes de ce côté-là. Allez, écoutons un petit extrait de Pierre et le loup. Ça nous fera du bien de l'entendre, de réentendre cette musique, ce conte musical.
Thank you.
pam 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 pam. Hein, ça nous dit bien quelque chose, cette musique.
Oui, tout à fait.
On va la laisser en fond là pour se s'imprégner un petit peu de notre Madeleine. Hein.
Oui.
Alors Marie, nous allons parler aussi à présent d'un autre compositeur. Vous connaissez sûrement l'œuvre Le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. C'est une suite musicale pour orchestre de Camille Saint-Saëns qui est composée au cours de ses vacances dans un petit village autrichien au début de 1886. L'œuvre est créée le 9 mars 1886, puis jouée le 2 avril 1886 en audition privée à Paris, s'il vous plaît. Les premières auditions intégrales publiques et posthumes ont eu lieu en février 1922 sous la direction de Gabriel Pierné. Son but à Camille Saint-Saëns était de faire rire. Ben oui, parce qu'on peut faire rire aussi en classique, c'est pas interdit. Le classique, c'est pas que du sérieux, que des gens à collet monté avec les petites nœuds papes. Non, non, c'est autre chose aussi, le classique. Mais ceci étant, faire rire, oui, sans tomber dans la puérilité. Ce qui lui fut reproché, car on le considérerait comme un compositeur sérieux. Camille Saint-Saëns. Alors, créé durant le carnaval de Paris à l'occasion du Mardi Gras, il fut rejoué par la société La Trompette pour fêter la mi-carême. Le compositeur interdit ensuite l'exécution publique de cette œuvre de son vivant.
Et oui, et il a fallu attendre la lecture de son testament pour que l'œuvre soit rejouée enfin en public.
C'est fou ça.
Et seule la pièce intitulée « Le Cygne » était exclue de cette censure et fut si volontiers jouée qu'elle devint le tube de génération de violoncellistes. Mmh. Anna Pavlova, considérée comme la meilleure danseuse de ballet classique de l'histoire, travaille avec le chorégraphe Michel Fodkine pour créer en 1905 le fameux ballet solo, maintenant associé au morceau de Saint-Saëns, qu'il rebaptise « La mort du cygne », qui n'a rien à voir avec le lac des cygnes de Tchaïkovski. Hein.
Alors là, vous connaissez bien Anna Pavlova, cette mort du cygne, c'est quelque chose, Marie, je pense, qui vous parle, puisque vous avez une école de musique.
Oui, c'est pour ça que je précise que ce n'est pas le... Enfin, je suis régisseur de l'école
régisseur,
de danse.
Régisseur, oui.
Ouais, c'est pour ça que je précise bien que ce n'est pas le lac des cygnes, parce que j'ai pas mal d'élèves qui pensaient voir la mort du cygne à la fin du lac des cygnes.
Exactement, et c'est pour ça que moi, je l'ai abordé aussi juste après, parce que souvent on confond cette mort du cygne et le lac des cygnes qui, lui, il est de Tchaïkovski. Et celui-ci, il a été écrit en 1871, donc antérieurement à l'écriture de Camille Saint-Saëns. Hein. Tchaïkovski profite de ses vacances aussi, visiblement les vacances les inspirent, ces gens-là, hein, pour composer un petit ballet, Les Bédinoïges, au zéro, destiné aux enfants de sa sœur. Alors pour le coup, c'est surprenant quand on lit l'histoire de ces deux écritures, parce qu'on se rend compte que les deux compositeurs ont écrit lors de leurs vacances. L'un à des fins, je dirais, plutôt ludiques pour des enfants, et l'autre à y regarder de plus près à une lecture bien plus compliquée. Hein. En effet, on dit de ce ballet que Tchaïkovski l'aurait écrit pour les enfants de sa sœur et qu'il aurait été contacté par le Bolchoï pour ce ballet, c'est pas rien le Bolchoï à l'époque, hein, avec une rémunération bien conséquente. Alors le compositeur se met donc au travail en collaboration avec le danseur étoile du Bolchoï de l'époque, et ils vont utiliser des contes et des légendes russes et allemandes pour écrire ce conte, hein, parce que c'est vrai qu'en Allemagne et en Russie, on est très riche en matière de contes. Hein. Ce ne sera pas tout de suite un succès et Tchaïkovski ne verra pas le fruit de son travail arriver à maturité, malheureusement. La création du lac des cygnes et les représentations qui suivent sont une cruelle humiliation pour le compositeur, qui la vit vraiment comme une nouvelle malédiction.
Et ce ballet est retiré de l'affiche et tombe dans l'oubli durant 18 ans.
C'est énorme, 18 ans.
Énorme. Il faut attendre la reprise de la chorégraphie par Marius Petipa en 1895 pour redonner au lac des cygnes la place qui lui revient. Il sera dansé par les plus grands jusqu'à Nourrieff, qui changera beaucoup de choses dans ce ballet.
Le grand Nourrieff, hein.
Et oui. On dit donc que le lac des cygnes est vécu par Tchaïkovski comme une malédiction.
Ouais, malédiction parce que après l'échec d'un mariage de pure convenance, Tchaïkovski tente d'échapper à sa nature profonde. C'est quoi sa nature profonde, Marie, en l'occurrence ?
C'est son homosexualité.
Déjà, à cette époque-là, c'était pas facile. Dans une relation épistolaire idéalisée par sa protectrice Nadeja von Meck, cette relation sera purement platonique, durera plus de 14 ans avec elle quand même. Hein. Alors étonnamment, Madame von Meck ne se doute jamais de la vraie nature de Tchaïkovski. mais elle lui écrit quand même une phrase, un mot, sur une lettre. « Piotr Ilitch, avez-vous aimé ?»« Il me semble que non. Vous aimez trop la musique pour aimer une femme. » Dur, dur, comme c'est une sentence presque. Hein. De fait, la partition du Lac des Cygnes est une composition révélatrice des aspirations et du tempérament d'un Tchaïkovski poursuivi par le sentiment d'une implacable fatalité, son homosexualité. Il faut qu'il l'assume, et à cette époque, c'est encore moins évident qu'aujourd'hui. Comme Siegfried, les amours féminines lui sont interdites. Le prince ne peut avoir de relations charnelles avec le cygne blanc, symbole de pureté. Ceci serait contraire aux lois humaines.
Et pour revenir dans notre siècle, le 17 décembre 2010 est sorti aux États-Unis un film américain réalisé par Darren Aronofsky, avec Nathalie Portman, Vincent Cassel, Mila Kunis, Barbara Hershey et Winona Ryder. Et en 1911, ce film est sorti en France. Ils en ont fait une interprétation magistrale qui fait d'ailleurs froid dans le dos quand on le regarde. Mmh, ah, moi, franchement, il y a des moments où je me suis caché les yeux.
Ouais, il est vraiment dur, ce film.
Mais nous reparlerons dans notre prochaine émission consacrée à la musique classique dans les films.
Oui, oui, parce qu'en fait, ce qu'on voulait faire, hein, c'est effectivement, il a été utilisé, ce morceau, pour la publicité.
Des publicités,
mais
oui.
il a été aussi utilisé pour le film.
Pour faire un grand film.
Un très grand film.
Même s'il n'est pas pour tous les publics de petites danseuses.
Alors, il est loin d'être pour tous les publics, effectivement, parce qu'il est assez traumatisant,
ah,
je trouve. Je n'ai même pas pu aller jusqu'au bout.
Moi, j'ai malheureusement des parents qui ont emmené tout de suite leur petite fille de 10 ans voir ce film et qui en sont sortis. Il a fallu que je mette une bande défilante sur notre site. Attention, film réservé à un certain âge.
Ouais, parce qu'il est choquant.
Oui,
hein,
très choquant.
Il fait mal. Vrai qu'il faut.
C'est un très beau film et la prestation de Nathalie Portman est.
Ah ben là, je dois dire qu'on. Nathalie Portman, Vincent Cassel, je crois qu'on a que des bons.
Oui.
Que des bons acteurs avec un bon compositeur. Ça peut nous faire que quelque chose de très beau. Donc, ce modeste tour d'horizon ne recense évidemment qu'une part infime des contributions de la musique classique à la promotion des ventes. Parmi les plus connues ou les plus récentes des prestations télévisées, alors on aurait pu citer également Pachelbel, Puccini, Strauss, Offenbach, Orff, Verdi, Mozart, j'en passe et des meilleurs, et puis donc de nombreux autres compositeurs auxiliaires involontaires du marketing. Mais comme on le disait, Marie, ensemble, une émission, ça ne suffit pas pour parler de tout cela, parce que vraiment, on a un florilège de publicités et de musique classique mis sur ces publicités qui font que bon, on ne pourrait pas s'arrêter d'en parler. Alors, on voulait juste vous faire découvrir à vous cette façon d'approcher la musique classique avec ses avantages et ses inconvénients, parce que effectivement, comme on l'a dit au tout début, ça peut paraître bizarre, ça peut paraître blessant pour quelqu'un qui aime le classique, de voir sacrifier une musique classique sur une image publicitaire. Mais quelque part, l'impact que ça a, moi je dirais, au regard de ces enfants et de ces adultes qui peuvent, par ce biais-là, s'imprégner de musique classique, je crois que ça vaut le coup quand même de laisser faire. Hein. Alors, on voulait aussi surtout en profiter pour écouter un petit panel de morceaux très variés. Je crois que c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Hein. On a été très large dans la diffusion. On a bien énervé Laurent aussi. Merci Laurent. On te fait un gros bisou parce que franchement, tu as été patient.
Il était super.
On lui en a fait voir de toutes les couleurs avec nos petits extraits à droite à gauche. Et puis, on va terminer par cette citation de Pablo Casal, violoniste espagnol, qui a dit « La musique chasse la haine ». Chez ceux qui sont sans amour. Marie, je vous laisse donner la suite.
Elle donne la paix à ceux qui sont sans repos et elle console ceux qui pleurent.
C'est pas joli ça, Laurent, t'as vu, hein, c'est chouette. Hein. Alors, on vous propose, pour conclure cette émission, d'écouter le Lac des Cygnes de Tchaïkovski. En attendant, on vous souhaite de nouveau une très très bonne semaine. À très bientôt sur Couleur FM, radio de proximité, pleine de couleurs, pleine de gentillesse, pleine d'humour et puis de tonicité pour vous. Il faut l'écouter le matin, le midi, le soir, tout le temps. Hein, vous restez branchés surtout sur Couleur FM. C'est votre radio de proximité 97.1. Et puis bien sûr, n'hésitez pas, hein, écoutez notre émission au fil des notes. Hein.
Oui.
Marie, je vous dis au revoir. Merci
moi
encore.
Aussi, au revoir. Hein. Et puis à la prochaine, j'espère.
À la prochaine, mais bien sûr. On ne vous lâche pas maintenant qu'on vous a trouvé, Marie. Laurent, merci à toi. Une bonne année. plein de bons enregistrements pour toute cette année. Et puis encore à très bientôt. Désolée pour toi, Laurent. On se retrouve. Au revoir.
Prince sur ton beau cheval tout blanc, vole tout droit vers ton destin. C'est la vie qui mène le bas sur notre chemin.
C'est de moi que tu parlais?
Le cygne là-bas qui porte une couronne. Tu ne le trouves pas magnifique?
Ouais, attends une seconde.
Mais qu'est-ce que tu fais?
Ça va peut-être être un peu grand, mais enfin... Et voilà, c'est terminé.
Qu'est-ce qu'il y a?
Tu le sauras si tu commences par fermer les yeux.
Oh, je t'en prie, j'adore les surprises. Je peux ouvrir les yeux maintenant?
Papa,
qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Excusez-moi, je ne t'aime vraiment pas. Peut-être le prince Siegfried du château. Vite, je veux le voir. Je ne t'aime pas, Hans.
Ron, attends-moi. Oh, attends-moi.
Maintenant, nous sommes quittes. Non. Oh. Quelle allure, quel style! Il est bien différent de toi, mon pauvre Hans.
Oh, tu pourrais arrêter de me comparer au prince Siegfried. Je veux simplement savoir quand tu accepteras de m'épouser.
Oh, ne dis pas de bêtises, je ne t'épouserai jamais. Merci, tu m'as sauvé la vie.
Oh.
étrange. J'ai l'impression que quelqu'un m'observe.
Prince ! Prince ! Prince, ça ne va pas ? Regarde sur le lac. Oh, je rêve ou quoi ? C'est bien un cygne avec une couronne sur la tête.
Il est vraiment très curieux.
Les signes sont toujours...
Qu'est-ce que tu fais?
Je vais l'épingler, ce signe. Avec une seule flèche, ça te fera un souvenir. Non!
Gérald!
Il est devenu une statue de pierre.
C'est une forêt magique. Le signe doit être le roi de la forêt. On ne peut pas rester ici, prince. Il faut partir.
Oui, peut-être.
Je vous en supplie, il ne faut pas rester dans cette forêt magique, c'est dangereux. Absolument rien d'étrange. Ce signe est certainement un sorcier ou une sorcière qui s'est déguisé. D'ailleurs, j'ai bien réfléchi depuis. Personne n'est encore allé sur l'autre rive du lac.
Non, c'est impossible. Je ne peux pas croire que cette bête splendide puisse être une sorcière.
Mais vous avez vu comme moi, Gérald a été transformé en statue de pierre devant nous. Quand il a visé le signe... Non, sincèrement, il vaudrait mieux pour vous que vous ne retourniez plus là-bas.
Prince, la reine vient vous rendre visite.
Bonsoir.
Siegfried, tu sais que demain c'est ton anniversaire. Demain tu vas devenir majeur et responsable.
Oui.
Et comme ton père n'a malheureusement pas survécu à sa maladie, tu deviendras le roi de ce pays.
Oui.
Et au bal donné en l'honneur de ton anniversaire, tu te choisiras une épouse.
Il faut que je me choisisse une épouse?
Bien sûr. Le souverain qui va régner sur ce royaume doit avoir une épouse.
Mais je n'ai pas...
Inutile de t'inquiéter, mon chéri. J'ai envoyé des invitations aux 6 plus belles princesses des royaumes voisins. Elles ont toutes accepté de venir demain. Et je ne chercherai pas à t'influencer. Laisse parler ton cœur et la princesse que tu choisiras deviendra la reine de notre royaume.
Mais excuse-moi, je ne peux pas encore attendre...
Oh non, non, impossible. Demain, tu seras majeur et la coutume de notre pays veut que tu te maries pour régner. Qu'est-ce qui se passe? Tu aimerais déjà une autre jeune fille?
Non, non, il n'y a personne d'autre, non, je t'assure.
Alors tu feras ce que je te dis?
Entendu.
Toutes mes félicitations, mon cher prince.
Oh, je t'en prie, hein, ça n'est vraiment pas drôle. Je vais devenir roi et qu'est-ce qu'on m'oblige à faire? À choisir une fille que je n'aime pas pour qu'elle gouverne avec moi. Il n'y a vraiment pas de quoi me féliciter. Cela dit, ma mère dit que c'est la coutume du pays et je ne peux pas m'y soustraire.
Effectivement, vous n'y pouvez rien. Vous êtes le prince héritier et vous saviez qu'un jour ou l'autre, vous monteriez sur le trône.
Oui, oui, merci, ça je sais.
Qu'est-ce qui se passe?
Cet étrange signe avec cette couronne, il faut absolument que je le revoie.
Vous voulez retourner là-bas?
Je suis fasciné par ce signe.
C'est pas possible, ça peut être très dangereux.
Écoute, si ce signe est capable de pratiquer la sorcellerie, comme tu le prétends, je veux lui parler et le supplier de délivrer le pauvre Gérald de ce sortilège.
Ce n'est pas possible. Imaginez qu'il vous fasse subir le même sort.
Non, je ne peux pas croire qu'une créature aussi magnifique puisse pratiquer la sorcellerie.
Mais c'est trop risqué.
Je t'en prie, ma décision est prise.
Oh, je me demande pourquoi on a mis une statue là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe?
Regarde, je crois que le signe s'en va.
Sois patient, je vais te délivrer.
Oh, regarde, c'est le prince Siegfried.
Regarde là-bas, le cygne avec la couronne s'en va. Viens, viens, il faut le suivre.
Le prince Siegfried suit le cygne qui porte une couronne. Dépêche-toi, viens vite.
Faut vraiment que j'y aille aussi.
Tiens, on dirait que la route s'arrête là.
Il vaut mieux renoncer et retourner au château. Non, prince, c'est impossible. Nos chevaux ne pourront jamais monter.
Quel courage! Prends-en de la graine!
L'autre ne réussira pas à monter. Allez! Attendez-moi, prince! Attendez-moi! Marguerite!
Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore?
Mais où veux-tu aller maintenant?
Parce que tu peux être bête par moment. Voilà une question idiote!
Il y a des jours pourtant où je me demande qui est le plus bête des deux.